le magazine des Nations Unies.
La crise dans le Kassai est dans les projecteurs de l'actualité. Les agences onusiennes et la MONUSCO en ordre de bataille pour venir en aide à 1,4 million de personnes déplacées. Elles ont réaffirmé leur détermination mercredi dernier. C'était lors de la conférence hebdo des Nations Unies. Entre-temps, 7,7 millions de Congolais exposés à une crise alimentaire, soit près de 10% de la population du pays. C'est en tout cas ce qui ressort d'une récente étude conjointe FAO-PAM. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la réponse des agences onusiennes à cette crise alimentaire en RDC? Alexis Bond, représentant ad intérim de la FAO, sera notre invité. Enfin, le ACR encourage les réfugiés urbains de Kinshasa actifs dans des projets agricoles dans la périphérie de la ville. Une dizaine de ces réfugiés ont exposé les produits de leurs champs à la foire agricole internationale du 18 au 27 août dans la capitale. Et ce sera ça, notre nouvelle de province. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de MAGUN. La situation de crise dans le Kassai a été au centre de la conférence hebdo des Nations Unies ce mercredi. Les intervenants ont décrit la situation et également indiqué les efforts qui sont menés sur le terrain pour ramener la stabilité dans cette région. Le point avec Jean-Pierre Elali Coco.
Le commandant second des forces de la MONUSCO, le général Commerce, a brossé les activités des casques bleus visant à ramener l'apaisement et la stabilité dans la région.
Nous avons des effectifs qui sont ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas mettre un homme derrière chaque citoyen congolais, mais nous faisons le maximum pour être présents là où c'est nécessaire.
Parlant au nom des agences onusiennes, le directeur pays du PAM a indiqué que le conflit au Kassai a entraîné le déplacement de 1,4 million de personnes, dont 850 000 enfants. Et les besoins, selon lui, sont énormes.
Les besoins en soins de santé, les besoins en eau potable et assainissement, et bien sûr, le besoin de sécurité.
Enfin, le directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies, M. Abdoulaye Azize Tchoye a décrit une situation alarmante de violation des droits de l'homme.
Côté des miliciens, nous le notons pour le déplorer, l'utilisation d'enfants, le recrutement forcé d'enfants, l'utilisation d'enfants comme bouclier humain, mais également les attaques contre des symboles de l'État. Pour ce qui est des forces de sécurité, nous avons noté une réponse disproportionnée aux actions des milices, causant au moins 600 victimes.
Restons dans le domaine humanitaire pour parler des réfugiés. Ils sont aujourd'hui 475 000 sur le territoire de la RDC, toutes nationalités confondues, selon le bulletin d'information du ACR qui donne la situation au 31 juillet dernier. Jean-Pierre Elali Coco revient sur les différentes tendances contenues dans ce document.
Se référant au souci de Ocha, le ACR note la présence des 475 000 réfugiés au total sur le territoire de la RDC. Dans ces chiffres, le Rwanda s'étale la part du lion avec 245 000 réfugiés présents en RDC. Nonobstant les rapatriements de plus de 5 000 de ses ressortissants, la RDC enregistre également en ce jour 102 000 réfugiés centrafricains, plus de 80 000 sud-soudanais et près de 44 000 réfugiés burundais, dont la majorité au sud Kivu, notamment dans les camps de Lucienda. Ce n'est pas tout. La RDC accueille aussi sur son sol 661 réfugiés angolais et 494 réfugiés du Congo-Brazzaville. Par contre, 616 000 réfugiés demandeurs d'asile originaires de la RDC se trouvent dans d'autres pays africains. Le ACR a besoin de 263 millions de dollars pour mener ses opérations en RDC pour l'exercice 2017. À ce jour, il n'a reçu des donateurs que 39 millions, soit 17%.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons sur l'entretien que le directeur pays de l'IRD a accordé au magazine des Nations Unies la semaine dernière. C'était à l'occasion des 10 ans de cette ONG basée en RDC. Mohamedou Saliou Diallo parle de cette institution, ses objectifs et programmes en Afrique et surtout ses réalisations en République démocratique du Congo. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Mohamedou Saliou Diallo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur pays IRD en République démocratique du Congo. Nous venons d'assister aux festivités marquant les 10e anniversaire de votre organisation. 10 ans pour une organisation comme IRD, ce n'est pas peu, et notamment les 5 ans passés en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur vos réalisations en République démocratique du Congo, très brièvement?
Ok, bon, je vous remercie. Pour répondre à votre question, IRD, c'est une organisation non gouvernementale qui a son siège à Kampala et nous sommes présents dans beaucoup de pays, notamment la RDC où on a une existence depuis 2012. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers la Commission nationale des réfugiés. On a aussi beaucoup de partenaires. On évolue pratiquement dans l'humanitaire avec très peu de développement. Donc, nous nous occupons des réfugiés, des déplacés internes. Et nos activités sont orientées vers la logistique. Donc, nous gérons les garages pour le HR et ses partenaires. Donc, on est dans beaucoup de provinces. On couvre pratiquement la RDC, partout où il y a une présence du HR. On est aussi dans la construction d'infrastructures. Nous construisons les camps de réfugiés, des postes de santé, des écoles. Nous faisons aussi des postes de police. On réalise également des marchés. Donc le grand défi que nous avons par rapport à tout ça, c'est particulièrement les difficultés des fois d'accès à certaines zones où il y a des problèmes de sécurité. Donc ça limite un peu nos activités. Mais nous avons le soutien des autorités congolaises qui nous assistent, qui nous permettent d'évoluer. Nous avons aussi d'autres partenaires qui travaillent avec nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier la CNR, qui est le partenaire gouvernemental, et tous les autres partenaires, notamment le HR, qui est un partenaire de taille pour nous, et les autres agences des Nations Unies, notamment le PAM, le Poulpon à travers OCHA, le PNUD. Nous travaillons également avec la MONUSCO, ça c'est au Katanga. Nous avons deux projets pour la réhabilitation d'écoles et de routes dans le cadre pour renforcer la paix dans la zone entre les différentes communautés qui sont en conflit.
Il y a eu des intervenants ici et tous sont revenus sur les succès que vous récoltez ici dans le cadre de vos réalisations. Et en quoi consistent justement ces succès selon vous?
Bon, le succès, c'est que, on a commencé en RSC, comme j'ai dit, en 2012. On avait juste un petit projet. Et aujourd'hui, on a quand même un programme qui est constitué d'une dizaine de projets. Donc, compte tenu de notre expansion à l'intérieur de la RDC, c'est qu'il faut savoir que AIRD a un système. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de systèmes qui nous permettent de gérer nos activités. Sur le plan de la logistique, il y a le système qu'on appelle PMS, qui est une base de données qui permet de faire le suivi dans le domaine de la gestion de la flotte automobile, de la gestion des garages. Donc, nous avons comme ça 7 systèmes qui nous permettent, qu'on a mis en place, qui nous facilitent dans nos activités quotidiennes. Nous travaillons aussi en étroite collaboration. Il y a un bon esprit d'équipe entre les collègues. Et la plupart de nos agents aussi, c'est un personnel qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans beaucoup d'autres organisations, qui se retrouvent chez nous. Donc, le fait que de leur expérience, de la connaissance du terrain, donc, ça nous permet d'avoir les résultats que nous avons actuellement.
Ok. Vous avez parlé des défis, notamment l'état de l'après des routes. Est-ce que vous avez d'autres défis à relever dans les prochaines années ou bien vous avez aussi des réalisations en vue?
Oui, bien sûr. Actuellement, on est en train d'avancer dans le programme que nous avons avec nos différents partenaires pour l'année 2017. Les grands défis que nous avons, c'est un défi aussi qui concerne l'ensemble des partenaires qui évoluent en RDC notamment. Comme vous le savez, les ressources s'aménisent. Donc les ressources, on les a pas comme les années passées, ça ne fait que diminuer. Donc ce qui fait que on va vraiment essayer de donner des priorités selon nos interventions. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il faut qu'il y ait une innovation face à cette situation de crise où il n'y a pas effectivement de moyens et où il y a de plus en plus de besoins. Parce que quand vous regardez la situation actuelle, les déplacés internes, on dit que c'est dans l'ordre de 3 500 000 personnes. Je ne veux pas tellement faire des analyses sur le nombre de personnes déplacées. Mais vous vous rendez compte aussi les différentes crises qu'il y a de gauche à droite. Donc cela veut dire qu'il y a un besoin réel. Mais malheureusement, les fonds ne suivent pas. Je voudrais aussi profiter de votre antenne, peut-être lancer un appel pour que vraiment les donateurs puissent aussi être attentifs à ce qui se passe en RDC. La RDC a reçu vraiment depuis longtemps de refuser des pays autour de la RDC, des pays frontaliers. Donc il faudrait vraiment qu'on prête attention à ces pays qui a beaucoup investi pour recevoir des refusés. Et la plupart de ces gens qui viennent, ils sont logés aussi dans les communautés hautes. Donc comme disait le coordinateur humanitaire au cours d'une réunion qu'on a eue en début de semaine. C'est effectivement le plus grand nombre de personnes qui interviennent dans l'assistance de ces réfugiés. C'est plutôt la population congolaise elle-même qui partage tout a priori avant l'intervention de la communauté humanitaire.
Une dernière question, vous avez parlé de la bonne collaboration avec la Commission internationale pour les réfugiés. Un mot sur le partenariat avec l'EACR et d'autres agences des Nations Unies.
Oui, on a de bons partenariats, une bonne qualité de partenariat avec l'EACR, d'abord le gouvernement congolais qui nous a accueillis et puis voilà qui nous crée des facilités pour pouvoir vraiment intervenir dans nos projets et programmes. L'EACR qui nous fait aussi confiance, qui est notre partenaire depuis 2012, date de démarrage de nos activités en RDC. En tant qu'IRT. Voilà, il y en a d'autres encore. Il y a, comme j'ai dit, le PNUD, il y a OCHA, il y a le Programme Alimentaire Mondial, il y a la MONUSCO notamment, avec les deux projets qu'on a à Kalemie, notamment pour la réhabilitation de routes et la réhabilitation aussi des écoles. Donc, la qualité du partenariat est très bien. Donc, j'apprécie et je les remercie à travers votre micro. Et on va continuer à lutter pour vraiment maintenir cette confiance. Et on est disposé à garder ce partenariat aussi longtemps qu'il y a des besoins dans le domaine où nous intervenons.
Voilà. Et M. Mohamedou Salio Diallo, Radio Kapi, vous remercie et bon anniversaire.
C'est à moi de vous remercier.
Et cette page nouvelle en bref part de Chikapa où plus de 4300 ménages, soit 26 000 personnes, ont bénéficié du soutien de la FAO en semences et outils aratoires pour leur permettre de mettre en valeur 200 hectares dont le potentiel agricole pourrait produire au minimum 500 tonnes de légumes. L'outillage aratoire est constitué des houx, des râteaux, d'arrosoirs et des semences de tomates, amarantes, gombo et des aubergines. D'autres ménages des localités de Chibimbi, Chishimbi, Mukumbi, Miabi, Chilundu et Kabea Kamwanga dans le Kassai oriental ont également bénéficié d'une assistance semblable de la FAO. De l'humanitaire à la sécurité, 281 policiers de la police nationale congolaise PNC venus de Kinshasa suivent à Lubumbashi, dans le Katanga, une formation de remise à niveau. Cette formation de 2 semaines a démarré mardi 22 août 2017 et a lieu à l'école de la police de Kasapa, dans le cadre du programme de renforcement des capacités de la PNC par la cellule de formation de la police de la MONUSCO, UNPOL. Enfin, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, offre des soins de santé primaires aux personnes affectées par la crise à travers l'intervention à des 3 structures internationales, l'Agence Adventiste d'Aide et de Développement, ADRA, Action Intervention pour le Développement Social, AIDES, et International Rescue Committee, IRC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous disions dans le sommaire, 7,7 millions de Congolais confrontés à une crise alimentaire aiguë, soit près de 10% de la population de la RDC. C'est en tout cas le résultat d'une analyse conjointe FAO-PAM rendue publique la semaine dernière. Quelles sont les causes de cette crise et comment la FAO s'y prend sur le terrain pour venir en aide à des milliers de personnes vulnérables? Alexis Bont, un représentant ad intérim de la FAO-RDC, est notre invité. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Lali, Ikoko.
Alexis Bonté, bonjour.
Bonjour.
Oui, selon un nouveau rapport de la FAO et du PAM qui a été publié aujourd'hui, la RDC compte 7,7 des personnes confrontées à une situation de faim aiguë. C'est pratiquement près de 10% de la population congolaise qui est concernée par cette crise alimentaire. Quelles en sont les causes?
Bon, tout d'abord, par rapport à l'année passée, c'est une augmentation de 30% du nombre de personnes qui sont dans cette situation de crise et d'urgence au niveau alimentaire. La principale cause, c'est le déplacement. Donc vous savez qu'au Tanganyika, il y a eu un déplacement relativement massif d'environ 500 000 personnes dû à un conflit communautaire qui sévit là depuis plus d'une année. Et la deuxième région qui est affectée, c'est ce qu'on appelle maintenant le Grand Kasaï, où là, depuis environ une année, il y a eu des violences assez extrêmes qui ont provoqué le déplacement d'environ 1,5 million de personnes. Toutes ces personnes, en fait, sont des producteurs agricoles. Donc quand elles se déplacent, elles ne peuvent plus produire pour elles-mêmes, donc ni pour elles-mêmes, ni pour les marchés. Donc en fait, la conséquence du déplacement de producteurs agricoles, elle est double, pour eux et pour la sécurité alimentaire des personnes qui vivent dans ces régions-là.
Il y a d'autres causes ?
Bon, il y a une autre cause en général, c'est le niveau de pauvreté qui est assez élevé ici en RDC. On estime pour une moyenne nationale que ce niveau de pauvreté est d'environ 60%. Et quand vous regardez les chiffres pour des provinces comme le Tanganyika ou plus précisément le Kasaï, ces chiffres de pauvreté arrivent à plus de 70%. Donc en effet, quand ces populations subissent un choc tel qu'un déplacement ou bien une crise au niveau des pluies par exemple, elles ne sont pas résilientes, elles n'ont pas d'autres moyens que de se déplacer et quasiment souvent de tout perdre. Donc par exemple, elles doivent vendre tous leurs actifs, tous leurs biens, qu'ils soient au niveau matériel ou bien au niveau de l'élevage. Et donc ces personnes retombent dans un cercle vicieux de l'extrême pauvreté.
Vous avez parlé du Kasaï, vous avez parlé aussi du Tanganyika. Et est-ce qu'il y a d'autres provinces de la RDC qui sont touchées aussi par cette situation de faim aiguë?
Alors la faim aiguë ici en RDC, elle est pratiquement toujours liée au conflit et au déplacement. Donc comme vous le savez, au nord Kivu et au sud Kivu, ça fait pratiquement deux décennies que l'instabilité a commencé. Et dans ces provinces-là, vous avez également de l'ordre de plus d'un million de déplacés. Donc vous savez, au total, il y a près de 3,8 millions déplacés en RDC. Et donc vous avez 2 millions au niveau du Tanganyika et du Kasaï et 1,5 million au niveau des Kivu. Puis après, vous avez encore quelques centaines de milliers, soit en Ituri, soit un peu au Maniema, etc.
Voilà. Maintenant, nous sommes au niveau de la réponse à cette crise alimentaire. Et qu'est fait la FAO et son partenaire, le PAM, pour résorber tant soit peu cette situation de crise alimentaire en République démocratique du Congo? Comment vous accompagnez le gouvernement de ces côtés?
D'une part, le gouvernement travaille sur la sécurisation du territoire. Et nous, on accompagne cette évolution positive, tant avec la FAO qu'avec le PAM. Le PAM, lui, se charge principalement d'une aide alimentaire, d'une assistance alimentaire d'urgence pour l'instant. Et on nous a appris durant la conférence aujourd'hui qu'il y a plus de 40 000 tonnes qui ont été distribuées grâce à World Vision au Kasaï. Et la FAO, nous, on a deux options. C'est d'une part de favoriser la production maraîchère, donc de contre-saison. Donc même quand il n'y a pas la saison de pluie, on peut toujours faire ça. Par exemple, à Chicapa, on a offert des motopompes, des arrosoirs pour faire en sorte qu'elles puissent arroser les cultures maraîchères. Et d'un autre côté, il y a les saisons agricoles au niveau vivrier. Donc la saison agricole va démarrer début septembre jusqu'à la mi-septembre. Et là, nous avons déjà reçu le support de plusieurs bailleurs de fonds, dont les États-Unis, la Belgique et également le fonds humanitaire ici en RDC. Donc là, on pourra et on espère aider plus de 10 à 15 000 familles qui ont été déplacées et certaines d'entre elles qui sont même déjà retournées dans leur milieu, comme à Dibaya Chimbulu par exemple.
Concrètement sur le terrain, est-ce qu'il y a des solutions appropriées qu'on trouve au niveau local en ce qui concerne justement la lutte contre cette crise alimentaire?
Là, on collabore beaucoup avec les ONG locales et comme j'avais mentionné, la FAO, on ne peut pas faire les choses seules. Et ce sont les ONG locales qui nous ont suggéré de faire le maraîchage en nous garantissant que grâce à leur relation avec les autorités locales et les églises, elles allaient pouvoir trouver des terrains disponibles pour que les déplacés puissent recommencer à travailler les champs et donc à reprendre goût à la vie, pouvoir produire des aliments, produire des revenus dont ils ont besoin, mais également reprendre goût à la vie et puis avoir une capacité de se projeter dans l'avenir. Parce que quand vous êtes déplacé, tel que les dames qu'on a rencontrées à plusieurs reprises, vous avez perdu mari, enfant, plus de maison, et je peux vous dire que les dames qu'on a rencontrées nous ont dit clairement, les habits qu'elles ont sur elles, c'est elles n'ont qu'un seul habit depuis 7 à 8 mois. Et c'est le même habit avec lequel elles ont fui les conflits. Donc ce qu'elles disent, c'est la journée, on met ses habits, et on travaille, on transpire dans ses habits, et le soir, on les lave, et c'est comme ça, chaque jour, avec le même habit. Et au niveau de l'alimentation, c'est également extrêmement monotone, parce que pour l'instant, elle se limite aux tubercules de manioc et de patates douces, et les feuilles de manioc et de patates douces. Donc il n'y a pas de micronutriments, il n'y a pas d'accès aux protéines, et ça, c'est un domaine dans lequel on voudrait essayer de travailler, c'est la protéinisation des ménages. S'il y a des problèmes de nutrition en RDC, c'est principalement par un manque au niveau alimentaire. Hein, c'est par un manque d'accès aux protéines animales. Donc là, on voudrait essayer de mobiliser des fonds pour que dans chaque école, on puisse avoir, par exemple, une unité de production de cobayes qui va permettre à chaque enfant qui va à l'école de pouvoir avoir accès à ces protéines animales au moins une ou deux fois par semaine. Mmh. Et même cette unité, ce qu'on espère, c'est qu'elle puisse multiplier un maximum de cobayes et que ces cobayes puissent être distribués au sein des villages également.
Et justement, lors de la conférence de presse de tout à l'heure, vous avez dit, en posant une question à une maman qui répondait en ce qui concerne justement la crise alimentaire, elle a dit « Je voudrais manger en paix ».
Voilà, ça, je pense que cette dame-là, en deux mots, elle peut résumer toutes les évaluations que toutes les Nations Unies, les ONG peuvent faire. Sont des droits fondamentaux, la paix, la protection et puis la nourriture. Sans ces deux éléments-là, de toute façon, on ne survivrait pas. Et donc, pour nous, que ce soit au niveau des ONG ou bien des Nations Unies, c'est un devoir de pouvoir assister ces personnes qui ont tout perdu pour qu'elles puissent retrouver la dignité et surtout manger en paix, comme vous avez dit.
Oui, OCHA a lancé en avril dernier l'appel pour essayer de lutter contre la crise humanitaire. C'était de l'ordre de 64,5 millions de dollars. Mm-hmm. Et quelle est la part du plaidoyer en ce qui concerne la crise alimentaire?
Voilà, donc ça, c'est des besoins qui avaient été exprimés au mois d'avril. Donc ces besoins ont été largement augmentés. Et dans le cadre de ces 64 millions qui avaient été évoqués au niveau du secteur de la sécurité alimentaire, à l'époque, c'était de l'ordre de 25 millions de dollars. Maintenant, en discutant avec les collègues du PAM il y a quelques jours, on estimait qu'il fallait au minimum 60 millions, voire 80 millions de dollars.
60 millions.
Oui, 60 millions, voire 80 millions de dollars pour pouvoir aider les 1,5 million de déplacés qu'il n'y a rien qu'au Kassai.
Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu Alexis Bonté, qui est représentant intérimaire de l'AFAO en République démocratique du Congo. Et Alexis Bonté, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, hein, de nous donner l'occasion de pouvoir parler en faveur des déplacés, surtout de cette dame et ses enfants qui ont subi des atrocités et qui essayent de retrouver goût à la vie.
L'UACR encourage de plus en plus les réfugiés à adhérer au programme d'autonomisation pour favoriser leur autosuffisance. À Kinshasa, une dizaine de réfugiés urbains ont activement participé à la deuxième édition de la Foire agricole internationale. Honoré Missinga, qu'elle a là pour les détails.
C'est un communiqué du HCR daté du 23 août qui l'a annoncé. 10 réfugiés urbains de la ville ont participé à la deuxième édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. Démarré le 18 dernier, ce forum devait fermer ses portes ce dimanche 27 août 2017. Les 10 réfugiés qui y ont participé ont exposé les produits de leur champ, la tomate, le manioc, la patate douce, la banane, les légumes et les légumineuses. C'est essentiellement dans la périphérie de Kinshasa, notamment à Kinkolé, Bouma et au plateau de Bateke, que ces réfugiés, parmi les plus actifs de la ville, s'adonnent à leurs activités champêtres. Des activités que le HCR encourage de plus en plus parce qu'ils favorisent l'autonomisation des réfugiés et renforcent leur indépendance ainsi que leur promotion. Et dans le même but, le HCR et ses partenaires favorisent aussi la formation professionnelle spécialisée d'une trentaine d'autres réfugiés urbains dans divers domaines, esthétique et beauté, auto-école, informatique, restauration, alphabétisation, coupe-couture et savonnerie.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche a trait à la déclaration de la SADC sur le processus électoral en RDC, à la réaction de la MONUSCO. Elle est posée par notre consoeur Sylvie Fortuné Mboula de Antenne A. Et c'est la porte-parole de la MONUSCO, Fabienne Pompé, qui répond.
Merci, c'est Sylvie Fortuné Mboula pour Antenne A. Fabienne, ma question est en rapport avec l'organisation des élections. Le dimanche dernier, comme nous le savons, il y a le président d'exercice de la SADC, Jacob Zuma, a déclaré au nom de son organisation que ce n'était pas possible d'organiser les élections en décembre 2017. Il a évoqué bon nombre de raisons. Comme on pouvait s'y attendre, il y a des réactions. L'opposition rejette cette déclaration. Et comment réagit la MONUSCO par rapport à ça? Et aussi pour l'organisation des élections de gouverneurs, l'élection a été suspendue dans certaines provinces pour des raisons aussi que la CENI a évoquées. Comment vous réagissez par rapport à ça? Merci.
Alors, pour les déclarations de la SADC, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour ce qui est de la MONUSCO, et on l'a répété, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, c'est que son mandat est de soutenir la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Cet accord prévoit que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année 2017. Jusqu'à présent, aucune des parties signataires n'a mis en cause l'accord, et pour nous, il reste le document consensuel sur lequel nous nous basons. L'accord envisage un report possible des élections, mais ce n'est pas à nous d'en décider. C'est quelque chose qui se décide au niveau de la CENI, du gouvernement et du CNSA. Mais ce que nous regrettons, c'est que la volonté politique et l'esprit de consensus qui avaient prévalu au moment de la signature de cet accord ne soient pas aussi forts, n'aient pas été aussi importants quand il s'est agi de le mettre en œuvre. Et les Nations Unies réitèrent encore une fois leur appel à une mise en œuvre de cet accord dans sa lettre, dans son esprit, dans sa totalité et de bonne foi.
Magazine des Nations Unies, portrait visible.
Bonjour, je m'appelle Alazie Mputu Innocent, père de famille, marié à Madame Lidine Seka Kimanga, avec qui nous avons 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. J'ai commencé mes études primaires à l'EP1 Lemba Nord, qu'on appelle communément Saint-Augustin, à Lemba, ici à Kinshasa. Après mes études primaires, je suis allé faire les cycles d'orientation au collège Saint-Raphaël à Limété. Et je suis allé au collège Sainte-Anne à la Gombe, où j'ai abordé des humanités littéraires. Bien entendu, à l'époque, on était un peu bouillant. Chez les prêtres, on n'a pas pu terminer les études. Là, nous sommes allés les finir à l'Institut Lumumba, où j'ai décroché mon diplôme d'État. Et dès là, je suis allé entamer mes études universitaires à l'Université catholique du Congo. Et là, j'ai fait la faculté de sciences et techniques de développement. Et en même temps que j'ai terminé la licence à la faculté catholique, j'ai abordé aussi les études d'agrégation d'enseignement. Et donc, je suis licencié agrégé en économie et développement. Alors, j'ai embrassé une carrière professionnelle jusqu'à devenir là où je suis, c'est-à-dire à la MONUSCO. Et à la MONUSCO, présentement, je suis assistant aux ressources humaines, poste que j'occupe depuis novembre 2014. Un poste qui me plaît beaucoup, être assistant des ressources humaines, ça me plaît parce que je suis tout le jour en interface avec les gens. Mais en gros, le travail que nous faisons consiste en l'administration des staffs nationaux. Avant d'arriver à la MONUSCO, j'ai eu aussi à faire un parcours, c'est-à-dire que aussitôt terminé l'université, j'ai été engagé à la société congolaise de pétrole qu'on appelait communément Elf Oil RDC, qui est devenue aujourd'hui le groupe Total. Dans Elf, là, j'ai passé 10 ans d'expérience. Oui, compte tenu de ce que nous faisons ici, on n'a pas assez de temps de repos, hein. Mais le peu de temps que nous avons, j'aime le consacrer à la famille, je regarde bien beaucoup la télé et j'aime beaucoup la musique, le sport, le football. Alors, en tant qu'innocent individu, j'aime bien manger, hein, j'aime bien manger, j'ai mes plats préférés. Et moi, je suis un riverain, j'aime bien manger la tortue, c'est mon plat préféré, le crocodile, le poisson frais, et surtout dans la formule liboké, c'est encore plus intéressant. Quand c'est accompagné de l'ituma, de la chikwang, c'est vraiment magnifique. Mes perspectives d'avenir, je totalise aujourd'hui 20 ans d'expérience, 10 ans dans les secteurs privés, 10 ans dans le système des Nations Unies, j'ai emmagasiné beaucoup de choses et dans l'avenir, je me vois dans le casque d'un consultant et rassembler d'autres experts. Hein. Nous sommes nombreux ici à la MONUSCO, on peut s'organiser et montrer un centre d'expertise pour essayer d'apporter quelque chose aux jeunes cadres qui terminent l'université, aux cadres aussi d'entreprises, pour leur apporter les best practices hein, qu'on a, afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes. Voilà un peu en gros ce que je peux dire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
Du 28 août au 1er septembre de cette semaine, ce sera la 60e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Ce sera à Victoria Falls, au Zimbabwe. Il s'agit en tout cas d'une réunion annuelle des ministres de la Santé des 47 pays de la région africaine de l'OMS. C'est déjà la fin de UNMAC qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Polydore Basunga. Ce magazine a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco qui est également au reportage. À la réalisation et au reportage, on aurait mis Senga Kalala sous la supervision de Martin Sibujangwe. On vous dit merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Radio Capi. Ciao, ciao.